never die.
Nerf this.
Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 50. Incroyable, on est déjà rendu au 50e épisode de ce podcast. On est très content d'être arrivé à ce chiffre rond et symbolique, mais qui ne veut rien dire puisqu'il y en aura plein d'autres, on l'espère, derrière. Je suis comme toujours dans ce podcast avec les meilleurs des meilleurs, et cette semaine il n'y a qu'un meilleur des meilleurs, c'est Stuck Logo. Salut Logo.
Salut, c'était bizarre, la semaine dernière c'était le meilleur des meilleurs pour Shaba et moi c'est un des meilleurs des meilleurs.
Ah, j'étais sûr qu'il allait...
On voit les préférences, c'est ça?
Pas du tout, rien à voir. C'est
hashtag je suis logo.
Ah, oui, bon, bah voilà,
hashtag je suis logo sur le réseau.
Voilà, n'hésitez pas à soutenir Logo dans cette quête complètement ridicule. De quoi on va parler dans ce podcast? Eh bien, évidemment, du super week-end qu'on a vécu via nos écrans, hein, pour la plupart d'entre nous, à Dallas. Week-end avec une ambiance incroyable, avec des équipes qui ont montré un visage parfois différent, parfois très similaire à ce qu'elles nous avaient fait depuis le début de la saison. On va parler de Séoul qui revient un peu au top. On va évidemment parler de l'équipe à domicile de Dallas et un petit peu des Hangzhou Spark. On fera le flop top, on fera les matchs de la semaine prochaine à ne pas manquer. Il n'y aura pas de questions cette semaine, on est complètement navré parce qu'on n'a pas. On a oublié, hein, on va pas se mentir. Et puis, de toute façon, on avait tous un planning un peu chargé également. Donc voilà. D'ailleurs, oui, vous habituez pas forcément à cette horaire-là du mercredi matin, c'est juste que pour des raisons pratiques, on n'a pas pu enregistrer avant. Donc voilà, on est là pour vous quand même. On est prêt, Logo, est-ce que tu es prêt?
Tout à fait, absolument.
Et bien alors, on va pouvoir lancer après un petit jingle. D'ailleurs, en parlant de jingle, vous aurez une petite surprise un peu plus tard dans ce podcast. Tiens, je le mettrai en prochain, juste avant le flop top. On commence donc avec l'équipe de Séoul. Alors, on va être tout à fait honnête, je n'ai pas eu de réseau pendant 4 jours, j'étais hors du monde. Et donc, je reviens interviewer Stuck Logo pour qu'il nous parle des matchs de cette semaine. Donc, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à écouter ce podcast, vous saurez tout ce qui s'est passé. La première équipe dont tu voulais qu'on parle, et je suis assez d'accord avec toi, c'est l'équipe des Seoul Dynasty. Séoul qui est en train de réaliser un stage assez correct. Ils sont en 3 victoires, 2 défaites, avec plus 6 en map average. Pour l'instant, ils sont dans le dernier slot qualifié pour les playoffs du stage 2. Ça devrait le faire. Il faudra voir un peu. En fait, leur map average, je pense, va beaucoup leur faire de bien. Ils gagnent 4-0 contre Houston Outlaws le premier jour. Ils gagnent 3-2 contre Los Angeles Valiant le deuxième jour. Un match assez serré et du coup sympa à voir avec une équipe de Los Angeles Valiant qui va mieux aussi. Cette équipe de Séoul, il y a quand même un élément qu'on aurait difficilement pu prévoir en début de saison 2. C'est que Fisher, qui était le gros transfert de l'été, ne joue pas. Pas, plus en tout cas, il n'a pas joué du week-end d'après ce que tu m'as dit. Et que c'est à la place Marvel qui le remplace et qui le remplace merveilleusement bien. J'ai décidé d'appeler cette section Captain Marvel. À toi.
Ouais, Marvel qui du coup maintenant est vraiment le titulaire sur tout ce qui est GOAT pour Séoul. Moi, ce qui était très marquant, c'est que jusqu'alors, Marvel, dans son style de jeu, il avait un côté un peu plus passif, un peu à la New York Excelsior où t'attends venir l'adversaire et derrière tu défends plus que tu attaques. Il avait pas ce côté très agressif qu'avait justement Fisher. Et sur le premier match contre les Houston Outlaws, il a montré vraiment tout l'inverse en fait. Il avait vraiment ce côté très agressif, à prendre l'initiative, à aller de l'avant, à tenir la front lane et à repousser la front lane adverse. Et il l'a très très bien exécuté, donc c'était quand même une très bonne surprise. Sur le second match, on a pu se retrouver un petit peu le style de Marvel dans les Seoul Dynasty, qui était un peu plus, on va dire, attentiste, à laisser venir l'adversaire pour derrière les punir. Mais c'est quelque chose de très intéressant de la part de Séoul, je trouve, c'est que sur les deux matchs, ils ont proposé deux styles de jeu différents, deux plans de jeu radicalement différents, où dans le premier, on va aller chercher les supports, dans le second, on allait plus focus fate. Et dans les deux cas, bon, alors pour les Valiant, c'est un petit peu plus de mal parce que aussi Los Angeles a fait un très beau match avec une magnifique front lane. Mais en tout cas, ouais, Marvel, c'est une très bonne surprise. C'est un joueur qui est pas le plus spectaculaire, qui a pas le profil du joueur star qui va te faire des plays de ouf. Mais ses cadets sont très bons. Il y a un truc aussi, c'est que Séoul a une capacité à le maintenir en vie qui est assez incroyable, et plusieurs fois dans les matchs où il se retrouve très très low, Et pourtant, on mobilise beaucoup de ressources du côté de Séoul pour le maintenir en vie, et ils arrivent relativement bien à le remonter niveau HP. Donc c'est dire à quel point c'est un peu la pierre angulaire de cette bonne forme de Séoul en ce moment, et c'est un joueur à suivre, je dirais.
Est-ce que tu parles justement de cette capacité à survivre, alors bien entouré par son équipe aussi, mais je me souviens pas que Fischer était particulièrement prudent quand il jouait l'an dernier. Au contraire, il entraînait son équipe derrière lui et c'est ça qui faisait sa réussite. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait expliquer aujourd'hui le fait que Marvel soit titulaire à sa place?
En fait, je pense que le côté Fischer un peu chien fou qu'il a depuis qu'on le voit jouer en Overwatch League correspond plus à des styles de jeu GOAT, plus de styles de jeu Dave, on va dire, où tu c'est un peu plus à l'initiative personnelle. Ça reste très collectif, hein, bien sûr, mais bon, t'as quand même une frontline qui y va, et c'est le main tank qui va un peu dicter ce rythme. T'as besoin d'être beaucoup plus en cohésion et paquet quand derrière t'es en GOAT. Donc forcément, quand t'as un joueur qui va, on va dire, se positionner mieux, encore une fois, contre Houston, il s'est quand même montré très agressif, mais après, il avait pas, il était rarement hors de position. Je dirais que sa grande force, c'est sa capacité à bien être positionné, à toujours être en mesure d'être pile, en mesure de back quand il va trop loin ou quand le vent prend une autre tournure. Et oui, forcément, son style de jeu est peut-être plus adapté à la méta et aussi aux assets qu'on séoule aujourd'hui. Avec peut-être moins de force individuelle et plus une cohésion collective.
Parlons-en justement de ces assets qu'a Séoul aujourd'hui. Il y a un joueur qu'on ne connaissait pas en début de saison, et pour cause, il arrivait des Contenders Trials de Corée. C'est Fitz, le joueur de DPS qui joue Zarya dans cette équipe de Séoul Dynasty, et qui, t'as été voir les stats... Et largement dans le top 10, voire même mieux sur la plupart des catégories de statistiques. Il fait énormément de bien à cette équipe de Séoul. On le sait, Zarya, c'est un pic très important. Lui, son apport contribue aussi à la bonne réussite de Séoul depuis le début de la saison, sur ce stage 2, mais depuis le début de la saison aussi. On rappelle qu'ils avaient déjà joué les playoffs stage 1. Est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, ces stats que tu avais trouvées?
Oui, absolument. Fitz, c'est le troisième meilleur joueur pour tout ce qui est dégâts en moyenne pour tes 10 minutes. Donc, il a 10 800 dégâts toutes les 10 minutes, en moyenne par 10 minutes. Il est aussi le huitième en coup de grâce dans la ligue et le cinquième en élimination. Donc, c'est quand même quelqu'un de très létal. Il a quand même des points, il a quand même des défauts par rapport où il va avoir tendance à être un peu trop surexposé et à mourir relativement souvent. Par contre, clairement, oui, c'est un joueur qui va quand même trouver les bons pics, très concentré sur le focus, et en fait un peu à l'image de toute cette équipe de Séoul, est très bien discipliné et capable de juste très bien exécuter le plan. Et derrière, quand t'as le tracking d'une Zarya niveau Overwatch League et que t'es capable de bien suivre les focus et de bien suivre le plan de jeu, derrière, ça marche très bien, en fait. Et ce côté, justement, joueur qui vient par la petite porte, qui a pas un ego surdimensionné, qui arrive dans la grande ligue d'un seul coup, comme ça, venant de nulle part, peut-être que ça fait qu'il a un ego un peu moins gros que certains autres joueurs, et que, du coup, il rentre bien dans cette idée d'être très collectif et très discipliné par rapport au plan de jeu, et ce qui, aujourd'hui, convient très très bien à Séoul. Et moi, je dis que c'est une bonne augure si ce joueur arrive toujours à être un très très bon teammate et à bien se positionner, à être toujours bon dans le tracking, tant qu'il y a de la GOAT, il sera fort.
Effectivement, c'est vrai que tu as raison, j'y ai pas pensé, ce côté peut-être j'arrive de nulle part et du coup j'essaie de faire mes preuves et je me contente de faire mon taf, c'est possible et ce serait une belle réussite et surtout une belle enfin en tout cas un beau scouting de la part de Séoul, parce que pour faire venir un joueur à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de joueurs dans tous les Contenders Trials du monde. C'est de le mettre en titulaire comme ça, c'est une bonne réussite. Il y a peut-être un grand artisan, si on peut dire, derrière toute la réussite de cette équipe aussi, un joueur qui est un ultra vétéran de la scène Overwatch League.
Une légende.
Ouais, une légende. C'est pas exagéré parce que c'est quand même un jeu qui a maintenant quelques années et lui, on l'a vu dès le début. Vous avez compris qu'on parle de Ryu Jeong, évidemment, le coréen joueur de support. Même si je me souviens que l'an dernier, ils avaient essayé de le faire jouer tank à un moment, non? Bon, bref, c'était les déboires de Séoul à l'époque, c'était pas terrible. Mais ouais. Je suis convaincu que Ryu Jeong, avec son expérience et le leadership qu'il peut avoir, est capable d'emmener des mecs comme Marvel et comme Fitz, qu'on connaissait pas en début de saison, et de fédérer un peu autour de lui pour que cette équipe aujourd'hui soit à ce niveau-là. Ça se voit probablement dans le jeu. Je pense qu'en dehors du jeu, c'est aussi quelque chose qu'on voit moins, mais qui, je pense, fonctionne bien. Aujourd'hui, Ryu Jeong, est-ce que tu penses qu'il est revenu à un niveau qui a fait de lui le joueur qu'on connaît maintenant?
C'est difficile à dire parce que c'était quand même pendant plusieurs années considéré comme le meilleur joueur du monde. C'est plus le cas aujourd'hui, on va pas se mentir. Par contre, sur ce week-end, il a montré quand même de très belles choses, notamment face à Houston, où il a été vraiment énorme, que ce soit sur Ana ou sur Zenyatta. Probablement son meilleur match en Overwatch League depuis la création de la Ligue. Il a vraiment eu beaucoup d'impact, il a été très très bon dans ses décisions, il a été très létal. Donc oui, sur ce match-là, on a vu un Ryu Jeong qui était vraiment magnifique, comme on l'espère le voir tout le temps, parce que c'est un joueur qui est vraiment qu'on a envie d'aimer, qui est très charismatique, qui est pas non plus qui joue pas la Rosta, mais qui pourtant voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a le sourire aux lèvres et qui est sympa quoi. Donc on a envie de l'aimer. Et contre les Valiant, il était un petit peu plus dans le rang. On a vu un Ryu Jeong comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire que ça reste un joueur très correct pour le niveau de cette ligue-là, mais ça c'est pas un Jeunac non plus. Mais dans l'ensemble, moi ce que je trouve intéressant, c'est que oui, ce rôle de mentor qu'il a, de dire ok, vraiment j'ai été au top du top et je sais ce qu'il faut faire pour gagner parce que je l'ai déjà fait. Et c'est très intéressant quand tu vois toutes les recrues qu'il y a eu. Quel Séoul, on parlait de Fitz et de Marvel, mais aussi quand on pense à Michel, qui sont les trois grosses recrues qui sont aujourd'hui titulaires. Bah, cette équipe, au final, elle tourne bien, et c'est peut-être aussi parce que ils ont quelqu'un d'expérience pour les aider. Mais en tout cas, il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est que Séoul, pour le moment, de ce qu'on peut dire, c'est que le mercato et les recrutements qu'ils ont fait durant l'intersaison, c'est plutôt réussi, quoi. C'est pas une équipe top tier encore, mais en tout cas, c'est très prometteur pour l'avenir.
Bah, tu vois surtout une progression par rapport à la saison 1, où ouais, ils avaient terminé, alors je sais même plus de c'est quoi, je vais vérifier parce que c'était catastrophique, mais.
Ils étaient 9e, un truc comme ça, 8-9e.
Ils avaient terminé 8e. Il a terminé 8e en 22 victoires et 18 défaites. Oui, c'était pas du tout au niveau de ce qu'on attendait.
C'était les fins d'une génération. Miro, Zumba, ça a été des légendes aussi. Et puis, ils étaient en fin de course.
Aussi.
Toby revient là. Toby revient très bien. La semaine dernière, il fait une énorme map à Enchevel avec des poupes fantastiques. Là, encore une fois, il tente des trucs et il est plutôt réactif, que ce soit sur les. Il se fait très peu piéger par les sombras sur les IEM et du coup il arrive très bien à mettre les broshields derrière pour contrer les IEM. Dans l'ensemble, non, il revient bien en ce moment, Toby. Mais clairement, la frontline des Séoul l'année dernière était un peu en bout de course. Et maintenant, c'est le renouveau de Séoul. On espère que ça va continuer sur cette lancée-là parce qu'on a envie de voir l'équipe qui incarne le pays de l'e-sport être au plus haut niveau, quoi.
Après, c'est vrai que c'est la seule équipe coréenne qui représente une ville coréenne. Maintenant, toi-même, tu sais qu'il y a quand même beaucoup d'autres joueurs qui représentent le pays coréen en Overwatch League. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire de cette équipe de Séoul. On peut faire un petit mot quand même sur Dallas, alors sur l'équipe en général. Mais quand même sur cet événement qui, il faut le reconnaître, et j'ai beau ne pas avoir vu énormément, j'ai quand même pu regarder le match phare, entre guillemets, entre Houston et Dallas. Et de ce que je voyais des VOD, honnêtement, j'avais l'impression d'être retourné à Paris en septembre, avec le public qui crie à chaque élimination. Ce qui est cool, c'est que c'était dans les deux sens, parce qu'il y avait quand même, en tout cas, je sais pas ce que ça donnait en termes de personnes présentes dans la salle, mais en termes de bruit, quand Houston remportait des teamfights, j'entendais pas mal de gens crier aussi. Donc, c'était hyper cool, et en regardant, je me disais, mais En fait, c'est ça, c'est comme ça que l'e-sport doit être joué, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte et que j'espère que ce projet qu'a l'Overwatch League de jouer avec des matchs à domicile dans des stades dédiés comme la fameuse Fusion Arena dont on a entendu parler il y a quelques semaines. Et je me dis, mais ça peut être tellement génial d'avoir ça à chaque fois parce que la Blizzard Arena c'est sympa, mais en vrai, ça change tout d'avoir un public qui réagit et je trouve que ça te met carrément plus dans le match. Voilà, c'était mon moment un peu émotion. Mais en tout cas, tu avais l'air de dire que l'événement s'était déroulé sans accroc ou presque côté organisation.
Ouais, c'était une franche réussite, hein, et personne n'a dit ou peut dire que c'était loupé. Le public a répondu présent, les 2 jours étaient sold out. Pour les viewers, il y avait un côté très frais de voir un autre décor où se joue
Oui.
de l'Overwatch League. Rien que ça, d'un point de vue visuel, c'est quand même très agréable
Je suis d'accord.
de voir d'autres choses. D'avoir une salle où il y avait 5000 personnes les 2 jours. Il n'y avait pas 5000 personnes toute la journée, hein, mais il y avait 5000 personnes à chaque fois pour les matchs de Dallas. Enfin, entre 4 ou 5 000, les chiffres sont très, on va dire, pas très précis à
Ouais,
ce niveau-là.
selon la police et les organisateurs, quoi.
C'est ça, ouais. Mais en tout cas, c'était quand même une très belle salle, très grande, qui on voyait qu'elle était remplie. Il y avait pas mal de cosplay. Les gens étaient vraiment aux couleurs de leurs équipes. Et du coup, il y avait, d'un point de vue de l'ambiance, ouais, comme tu disais, moi aussi, ça m'a fait beaucoup penser à la World Cup quand c'était à Paris, où il y avait une énorme ambiance et les gens étaient contents d'être là parce qu'ils voient très peu d'e-sport Overwatch chez eux. C'était la première fois à Dallas, c'était la première fois quand c'était à Paris aussi. Et du coup, voilà, il y a ce côté très enthousiaste du public que tu as un peu moins dans la Blizzard Arena. Et puis l'autre truc aussi qui change, c'est que là, tu étais vraiment dans une salle de sport, d'événements sportifs, alors qu'il faut pas oublier, c'est que la Blizzard Arena, ça reste un studio de télé avant tout avec des gradins dedans.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, ça change un peu l'atmosphère que t'as forcément dans le truc, quoi, où t'as quelque chose de beaucoup plus vivant. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Bon, il y a eu la fameuse panne de courant au tout début, dans le tout premier match. Ça, on peut pas forcément l'imputer aux organisateurs parce que c'était vraiment un truc au niveau du quartier, voire de la ville de Dallas, qui était indépendant de toute organisation de cet événement-là. Donc, bon, le truc est revenu assez vite, hein, mais encore une fois, c'était même pas de leur faute si c'est revenu vite.
Ouais.
Donc bon, on peut juste gentiment oublier, ça arrive.
C'est anecdotique.
Mais sinon, oui, je pense que c'est simplement une réussite. Le seul petit bémol que je mettrais, ce serait la scène qui n'était pas très jolie. Mais mis
Oui,
à
mais
part
comme
ça,
tu dis, elle était différente de ce qu'on voyait d'habitude, donc
oui, c'est ça, ouais.
voilà, finalement, ça. Moi, tu vois, en regardant, je trouvais que par rapport à la Blizzard Arena, et tu dis, tu as raison, c'est là où on voit, c'est un studio de télé, c'est quand les joueurs, tu les vois sur mini-écran, tu les vois vachement bien. Là, tu voyais à peine le reflet de la lumière de l'écran sur leur visage, donc tu les voyais pas. Ce qui est pas forcément grave, parce que moi, je trouve pas particulièrement intéressant ces gros plans sur les joueurs. Mais bon, voilà, c'était des trucs un peu différents aussi. Il y a ce fameux, alors j'ai découvert, débat. Sur le fait de huer l'équipe adverse. Alors, je tiens à rappeler aux gens que c'est une compétition, que le but de faire une compétition à domicile, c'est de supporter ton équipe. Et je suis désolé, mais supporter ton équipe, dans supporter ton équipe, il y a aussi perturber l'équipe adverse. Et à partir du
Oui.
moment où tu fais pas un doigt d'honneur à la caméra et t'insultes pas la maman du joueur adverse, franchement, enfin, détendez-vous quoi. C'est pas, je comprends, enfin. Huer, ça fait partie du jeu. Alors, il y a des sports où c'est pas dans l'esprit. Typiquement, tu hues pas un buteur au rugby. Mais dans la grande majorité des sports, siffler l'adversaire, c'est pas la mort, quoi. Le but, c'est de le faire sortir de son match un peu aussi. Et c'est le but du public. Donc, je suis assez content de voir que le public de Dallas s'est prêté au jeu. Voilà.
Ça reste bon enfant, et puis comme tu dis, en fait, le but aussi c'est de déstabiliser l'équipe adverse. Il n'y a pas eu de truc très très violent, hein. C'est resté très correct. Je pense que c'est plus pour dire, ok, c'est pour jouer le jeu, quoi. Ça fait partie du spectacle.
Oui, oui,
Et
oui.
puis c'est frais aussi d'un seul coup de se dire,
Bien
ok, il y a une
sûr.
vraie adversité. Ça rajoute une autre dimension au match. Ça crée de l'enjeu, ça crée de la storyline. Donc au final, tout ce que ça fait, c'est créer plus d'histoire, ça renforce la rivalité, et au final, moi, ça m'a pas choqué, et je trouve ça juste très bien, en fait, et j'ai envie de voir ça tout
Oui.
le temps, en fait.
Mais bien sûr. Après, voilà, moi, comme dit dans le match entre Dallas et Houston, je trouvais qu'il y avait un poil beaucoup de sandbag de la part des
T-bag, il est T-bag.
T-bag, oui, sandbag, c'est faire exprès de perdre. T-bag de la part des joueurs de Dallas, c'est Ça, bon, autant je suis pas forcément opposé à l'idée de chambrer un peu l'adversaire en match aussi. Autant là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Mouma mourait, c'était gros teabag sur lui. Bon, peut-être que t'es pas obligé d'en faire autant, c'est un autre débat. Le fait est que ce public a joué son jeu et je sais pas ce que ça donnait sur les autres matchs, est-ce qu'ils étaient tout autant impliqués?
Non, ils étaient nettement moins, mais il y avait quand même de l'ambiance. C'est-à-dire que c'est
Ok.
un peu comme à Paris. C'est-à-dire que quand t'avais un beau play, quand t'avais un beau play de Danier, bah, les gens étaient,
Ouais.
applaudissaient, il y avait
Ok.
quand même quelques exclamations. Mais bon, c'est pas la même chose que quand t'as un entry kill de Dallas sur le premier team fight, quoi.
Ah bah le c'est dingue sur la map là, la première Legion Tower contre Houston, donc c'est le marché de nuit. Dallas ne meurt pas une seule fois.
Bah, OG défonce tout le monde à coups de
Y a pas une
marteau
seule
dès le
mort.
début.
À chaque fois Houston descend de la petite terrasse là sur la place du marché, ils se font défense. Descend du petit terrasse, ils se font défense. Et à chaque fois le public est complètement fou. Et derrière ils mettent un gros 2-0. Ah non, c'est plus serré sur la tour.
Bah,
Ah
il y
non, pas la
a.
tour. Comment il s'appelle celui-ci? C'est les jardins. Les jardins.
Il recap à 99 et finalement ils tiennent après, ils arrivent à aller jusqu'au bout,
Ouais.
mais oui, c'était un peu plus serré.
Mais ouais, c'était plus serré. Mais voilà, c'est clairement là, Houston, ils ont dû se dire que ça allait être une autre paire de manches ce match-là parce que et tu le vois Jake à la fin, tu le vois parler. J'imagine qu'il est en train de leur dire les gars, on essaie d'oublier, on essaie de rentrer dans le match et ils l'ont très bien fait sur Anubis derrière. Mais j'imagine que ça fait un petit truc quand même, quoi.
Mais et puis tu le vois en plus directement, c'est quand ils se font huer à l'entrée en scène des Houston, c'est Rukus qui fait genre d'un point de vue sarcastique des pouces
Ouais,
vers le
voilà,
mec.
qui dit
Et ça
bravo.
au final tu te dis bon bah ok, donc dans ce cas-là ça a marché parce que le mec il est déjà plus dans son match, il est déjà en train de réagir au public qui le hue. C'est un skill aussi, ça fait partie des joueurs pro d'être capable de bah, quel que soit l'environnement, de performer et d'un environnement hostile. Dans tous les sports, hein, les grands joueurs, les environnements hostiles, ça les remotive et ça leur permet d'être encore plus forts.
Ouais.
C'est un truc à prendre en compte, c'est un contexte. Et puis quand un joueur se fait huer et qui sort une très grosse performance, bah, ça va juste rajouter à sa légende.
Exactement, bah comme honnêtement quand sur Gibraltar là ils vont teabag Mouma à chaque fois et à un moment ils le teabag après le point B le point A sous la navette derrière Mouma il les écrabouille pendant 4 ou 5 teamfights d'affilée ils auraient peut-être pas dû le trigger à ce moment-là quoi. Plus sur l'aspect sportif de Dallas OG qui a pas joué semaine 1 qui a fait une semaine 2 exceptionnelle notamment le match face à Paris qui a eu une semaine 3 compliquée et là il est revenu au niveau qu'il avait eu semaine 2 il est ultra déterminant sur le match alors celui que j'ai vu oui sur l'autre j'imagine aussi
Même peut-être encore
face
plus.
à Valiant
C'était peut-être encore plus le cas. C'était un peu la. Ah, tu m'entends plus?
Si, oui, pardon,
Non.
j'avais un doute sur le fait que ce soit Valiant, mais oui, si c'était ça,
Si
hein.
c'était les Valiant,
Ok,
ouais.
ouais.
OG, c'était un peu la grosse question. C'est-à-dire que lui, il avait jamais joué sur scène. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience sur scène du côté de Dallas. On pense aux anciens Rock, bien sûr, les deux Français. On pense à Taimou qui joue pas, mais.
Mickey avec la Thaïlande, les
Mickey,
Américains
Closer.
aussi.
Voilà. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience sur scène. Ce qui n'était pas du tout le cas de OG. Et en plus, il commence quand même par un gros mastodonte. Enfin, on va dire qu'il joue sur scène avec Kovacic tous les jours, mais c'est différent de jouer devant une salle de 600 et devant une salle de 5000, quoi.
Ouais,
Et
d'autant
au
plus acquise
final,
à ta cause.
ouais. Et on l'a vu craquer sur la fin en pleurant après le match contre Houston, trop chargé d'émotions, mais. Sur les matchs, en tout cas, il était là, il était très concentré, il a été très agressif et très létal comme on l'avait connu contre Paris. C'est vraiment un main tank qui la joue DPS, quoi, qui va vraiment dans le tas et qui va chercher au marteau le kill.
Ouais, c'est ça, c'est souvent lui qui finit quand tu vois la barre de vie du mec adverse. Là, il y a un coup de marteau qui part et le mec est mort.
Et à ça, il a été dans le même registre contre Paris en semaine 2, par exemple, où il a été vraiment exceptionnel. Et bah, il a rempli son rôle. C'est un style de jeu qui reste quand même très risqué, on va dire, parce que tu t'avances, parce que tu t'es toujours en proie à des shieldbash, parce que bah, t'es beaucoup à faire des coups de marteau et derrière tu peux te faire hard focus. Mais OG, ça reste quand même une des plus belles progressions de la saison pour le moment. C'est un joueur qui était considéré comme étant fort l'année dernière, mais pas aussi impactant. Et là, en tout cas, il s'est vraiment devenu un peu l'âme de Dallas. Hein. C'est la star de l'équipe. Et
Ouais.
quand lui va, Dallas va. Et quand il va pas, bah, Dallas, c'est plus compliqué.
Et en même temps, c'est la star de l'équipe. Tu vois quand même que tous les mecs autour de lui sont à un niveau très très solide. On peut faire un petit instant cocorico quand même et parler de nos deux joueurs français qui ont brillé. Alors, tu modérais mon enthousiasme avant le podcast et tu as raison. AKM a eu un niveau très bon qu'on attend de lui.
Ouais.
Et donc là-dessus, il a été OK plus. Voilà.
Alors, en fait, AKM, il est constant depuis le début de la saison et
Ouais.
c'est sa grande force, c'est que tu sais ce qu'il va te donner et il te le donne très bien. Il fait pas d'erreur de positionnement et du coup, des fois, il est un petit peu plus safe que d'autres Zarya, mais en même temps, bah du coup, il meurt pas, il se charge très bien, il se fait assez rarement manger des Glavitons. Donc voilà, il fait pas d'erreur, il va pas non plus te hard carry comme certaines Zarya te font, mais par contre, il fait pas d'erreur, il
Voilà.
joue très bien
C'est pas
et voilà.
Sinatra, mais c'est bien.
Ouais, voilà, ouais, c'est très très bien déjà,
Et
c'est du très solide.
il charge son énergie rapidement, mais il charge sa graviton, sa bombe à graviton à une vitesse. C'est solide aussi, hein. En vrai,
Ah
c'est
oui, c'est très bien. Je sais pas si c'est top tier Zarya, mais en tout cas, c'est une Zarya qui te fait pas perdre des matchs, qui peut t'en faire gagner, donc bah c'est tout ce que
ouais,
tu demandes à un joueur de Zarya.
exactement. Surtout dans cette compo GOATS où oui la Zarya est importante mais encore une fois ses plays sont déterminants enfin les plays peuvent te faire plus perdre que gagner donc bon c'est très bien de sa part. Est-ce qu'on spoil un peu la suite? Non, pas trop, on peut juste dire un mot rapide sur Unko mais en vrai Unko a été au top, notamment le match face aux Outlaws, avec des grenades sur 2, 3, 4 joueurs parfois, avec sa Ana, qui ont peut-être d'ailleurs forcé le pick Kul'Mat sur la dernière carte Gibraltar, qui prend Diva, pour essayer d'absorber un peu les grenades, sans grand succès d'ailleurs. Voilà, les deux Français, globalement, ont prouvé qu'ils méritent très largement leur place de titulaire dans cette équipe déjà. Et surtout, moi je trouve ça hyper encourageant dans la mesure où on n'en a pas reparlé depuis, mais on sait qu'il y aura une Coupe du Monde en 2019 Overwatch League. Overwatch, pardon, du coup. Moi ça me rassure de me dire que tu as deux Français qui sont à ce niveau de jeu-là, qui sont dans une équipe qui roule bien. Je trouve ça plus qu'encourageant.
Ouais, faut-il encore qu'il veuille jouer en Overwatch en Coupe du Monde cette année, parce que
Effectivement, j'avais oublié cette histoire.
peut-être que l'épisode de l'année dernière les a un peu trop. Je sais que il y avait des déclarations un peu précipitées qui sous-entendaient qu'ils allaient arrêter de faire la Coupe du Monde, parce qu'en plus, bah...
J'ai plus Unko en tête qu'AKM, mais.
ouais, mais bon, après AKM avec les histoires avec son frère a aussi a une position particulière par rapport à ça, mais.
Peut-être.
En tout cas, oui, Unko, j'ai pas trop en parlé parce que j'en parlerai plus tard, mais il a été monstrueux.
Voilà. C'est dit. Dernière équipe quand même qui nous a plu ce week-end, les Hangzhou Spark, qui gagnent leurs deux matchs 3-1 face à Chengdu Enders et 3-2 face à Paris dans un match serré et malheureusement perdu pour Paris, mais qui a été voilà jusqu'à la cinquième carte pardon sur Busan. Bon après voilà c'est un 2-0 sur la map de KOTH. Bon, en tout cas, Hangzhou qui retrouve un grand Gucci, pour le plus grand plaisir de tous les fans français de ce joueur.
Elle blesse, on pense à toi.
Voilà, notamment Alblès, évidemment, qui est le président du fan club français de Gucci. Et ben voilà, finalement, c'est le tank qu'on voulait voir après la Coupe du Monde en Overwatch League. Il a bien démarré et finalement son équipe s'est un peu moins a un peu moins roulé donc il a pas voilà il a peut-être pas eu l'impact qu'on voulait qu'il ait. Il est en train de prendre un gros volume quand même.
Ouais, Gucci était surtout, on l'avait surtout remarqué pour son Winston à la Coupe du Monde, et forcé de constater qu'il est plus obligé de jouer Reinhardt avec cette méta depuis le début de la saison. Et il avait justement cette tendance à être un peu trop hors de position parce que bah tu peux te permettre avec Winston parce que t'as la bubule et après derrière tu peux t'échapper de la ligne de front. Là, il commence à être un peu plus sage le positionnement et surtout à être très solide dans tout ce qui est défense, peeling, être capable de voilà justement de mieux s'intégrer dans l'équipe. Faut le rappeler, à lui et Crystal, c'est les deux seuls Chinois de l'équipe et ils jouent avec que des Coréens à côté, donc
Ouais.
forcément il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte. Mais en tout cas, ouais, il commence à vraiment être une pierre angulaire de l'équipe, à être très intéressant, très solide, très discipliné. On parlait de discipline avec Séoul, les Sparks aussi dans l'ensemble, c'est quand même une équipe qui a montré beaucoup plus de discipline cette semaine que ce qu'ils ont pu montrer en début de saison. Et moi, je trouve que c'est de bon augure parce que les Hangzhou Sparks, c'était un petit peu le buzz de pré-saison en disant que c'était l'équipe qui défonçait tout le monde et qui choquait un peu derrière sur scène quand, la, quand les matchs pour de vrai, qui comptent pour de vrai se jouaient. Là, pour le coup, on commence peut-être à entrepercevoir le Hangzhou Spark qui faisait peur à toutes les autres équipes quand c'était des scrims, quoi.
Oui, avant, c'est vrai qu'on avait été un peu surpris du début de saison des Sparks, dans la mesure où tout le monde les vendait ultra dominants en scrim et que finalement, ils ne s'étaient pas passés grand-chose, en tout cas pas au point auquel on l'attendait. Donc peut-être qu'effectivement, ils sont en train d'arriver. L'autre constat qu'on peut faire sur cette équipe, c'est que de manière assez générale, ils commencent à être de plus en plus réguliers sur leurs performances. Et pour ce stage, ça va. Alors, techniquement, aujourd'hui, ils sont encore qualifiables. On va refaire un point tout à l'heure, mais ils ont un différentiel de cartes de moins 3. Donc, en vrai, ça risque d'être compliqué s'il y a d'autres équipes qui sont dans le même bilan qu'eux. Mais peut-être que pour le stage 3, quand bien même il sera dans un petit moment, il sera temps de les prendre enfin en compte au niveau auquel ils risquent d'être pour de vrai, quoi.
Ben après, faut voir si la méta va changer entre le stage 2 et 3. Pour le moment, on n'a pas vu de patch qui sous-entendrait un changement énorme de la méta. Désolé pour les haters de la GOAT.
Ouais, après, ça commence le 7 juin, l'étape 3. Hein.
Ouais,
on a le temps de le voir arriver, quoi.
Ils ont le temps de patcher des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui sortent de leur boîte et qui commencent vraiment à se révéler. Je pense notamment à Godsby. J'avais fait un magnifique jeu de mots, Godsby le magnifique.
Godsby le magnifique, oui, voilà. C'est bravo, ce club énorme. Voilà.
Qui, a, pour moi, a été vraiment extrêmement fort, notamment face à Paris, mais encore plus face à Chengdu. Sa Zarya était correcte, elle était ok, et là, ce week-end, elle a été vraiment très intéressante. Après, ils ont toujours des gars qui étaient très forts dès le début et qui continuent à l'être. Je pense notamment à Aidika, le healer, et aussi on voit beaucoup plus de cristal, et ça me fait plaisir pour jouer notamment le bastion ou aussi pour des fois sortir le Genji. Cristal qui est le jeune joueur chinois que j'aime beaucoup, qui est, ouais. Lui aussi avait un peu percé l'écran durant la Coupe du Monde et qui pour le moment n'avait pas beaucoup de temps de jeu, et puis Ria aussi, Ria qui parlait tout de suite de lui avec des énormes bombes de diva. Lui aussi, il est toujours aussi efficace. Donc, on sent que l'équipe commence à step up, prend ses marques. Elle se fait au rythme de l'Overwatch League. Et c'est de bonne augure. Je pense que c'est une équipe à suivre pour stage 3-4. Il risque d'être extrêmement piégeux. Ça va être très piégeux de jouer contre cette équipe, je pense.
Et finalement, je suis en train de repenser, mais tu as quand même trois équipes chinoises qui vont être à un niveau assez solide si elles continuent dans leur progression stage 3. Parce qu'entre Shanghai, Hangzhou et Chengdu, ça peut finalement tendre vers quelque chose qu'on imaginait avant le début de cette saison Overwatch League. On l'imaginait peut-être pas à ce point-là, mais de dire que voilà, la Chine est en train de prendre vraiment un essor en Overwatch et dans l'e-sport en général, puisque si tu regardes sur d'autres jeux assez représentatifs, notamment League of Legends, t'avais une équipe chinoise en finale l'an dernier au championnat du monde. Donc voilà, la Chine petit à petit prend de plus en plus de place sur la scène e-sport et ça pourrait se traduire dès le stage 3 dans l'Overwatch League. Donc voilà, c'est un bon indicateur aussi, c'est intéressant.
Après, faut pondérer quand même, hein, mis à part Chengdu, des Chinois, il n'y en a pas beaucoup en Overwatch League, même dans les autres équipes chinoises, dans les Sparks, il y en a deux, il y en a un dans les Shanghai Dragons, chez les Shanghai Dragons, mais qui vient de quitter l'équipe pour des raisons personnelles là.
Ouais.
Donc, oui,
mais c'est non, mais voilà. Des joueurs, les joueurs sont pas forcément de la nationalité.
Oui,
mais
en tout cas,
l'équipe.
On se serait dit déjà quatre équipes chinoises, dont trois qui sont très intéressantes et qu'on a envie de voir jouer, et on est content de les voir jouer. Tu nous aurais dit ça il y a un an, on n'y aurait pas cru.
On aurait souri. On va pas mentir, on aurait souri.
Ouais.
Voilà pour un petit peu le débrief des matchs de cette belle semaine à Dallas. On n'a pas parlé de Paris, c'est vrai, mais bon, bah voilà, on en parle assez souvent et malheureusement, c'est deux défaites qui mettent probablement un coup d'arrêt aux chances de se qualifier en play-off. Voilà.
Pour en dire deux mots, parce que la chose marquante du week-end, c'est que c'est le retour de Nico GDH sur scène qui remplace Finzi pour Diva. Moi, c'est un choix que j'aime beaucoup parce que Finzi, je le trouvais quand même pas top top. pas au niveau Overwatch League. Maintenant, faut leur donner du temps aussi. Hein. Il faut qu'ils trouvent la bonne formule. C'était l'objectif de ce stage-là, c'est de prendre le temps d'essayer des trucs, de trouver la bonne formule. Donc maintenant, faut attendre encore un peu. Faut pas trop attendre non plus, quoi.
La saison va vite. Aujourd'hui, le classement, je vais regarder très rapidement, mais sur le général, Paris aujourd'hui est 15e. Il y a encore un petit bout de chemin pour réussir à remonter jusqu'aux places qualificatives pour les play-in. Et ce serait dommage de ne pas les faire parce que pour le coup, ce serait vraiment une saison, je pense, un peu gâchée dans la mesure où il y a 12 équipes qui y vont et Paris doit pouvoir faire partie de celle-ci, je trouve.
Bah, sur le papier, il y avait des joueurs qui étaient quand même des noms assez ronflants, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. Il va falloir au moins faire, je pense, un stage playoff entre le 3 et le 4 pour espérer être dans les play-in, quoi. Sinon, j'ai du mal à les imaginer en play-in.
Je suis d'accord. Et encore une fois, hein, ça dépend peut-être aussi des calendriers, des stages. On l'a souvent dit depuis le début de cette saison. Mais bon, voilà, on espère pour Paris qu'ils pourront goûter un peu à ces playoffs de stage et peut-être se faire un peu les dents aussi sur des matchs à élimination et à enjeux pour d'éventuels play-in en fin de saison. On va passer au flop top. Après, comme promis, la petite surprise jingle. He's chasing him. OG, he's getting him. Oh, he's on the clutch. Sleep Dart comes in from Onko. He's saved and they manage to find the kill.
Salut Sunco, vous écoutez Nerf This Podcast.
Superbe petit jingle avec évidemment Unco qu'on avait eu dans le podcast il y a quelques semaines et qu'on remercie encore d'être passé. Il nous écoute sûrement, je l'espère. En
fait. Oui,
mais peut-être, en vrai, peut-être.
J'y crois pas un seul instant personnellement, mais oui, disons que oui, disons que oui.
Allez, pour le plaisir. Comme toujours, on est dans une émission de joie et de bonheur, et donc on commence par le flop pour finir par le positif. Logo, ton flop.
Ouais, mon flop, ça va être les London Spitfire qui font un peu la mauvaise apparition de la semaine. C'est-à-dire qu'ils étaient qualifiés pour les playoffs du stage, certes, mais cette défaite contre Chengdu, pour moi, elle est... clairement, de leur faute, c'est pas tant Chengdu qui a très bien joué. Certes, ils ont très bien joué. Mais par contre, Dallas a montré un niveau de jeu qui était quand même assez déplorable. Ils
avaient Londres, Londres.
Londres, pardon, j'ai dit quoi?
Dallas.
Pardon, oui, Londres. Londres qui fait un match correct face à Paris. Ils sont très bien, ils les dominent et c'est difficile de savoir ce que valait vraiment Londres sur ce match. Mais par contre, contre Chengdu, ils étaient apathiques, ils ont subi, ils n'ont pas trouvé de solution. Alors que pourtant, on voit que maintenant les limites un peu du système Chengdu Hunter, c'est que certaines équipes ont déjà montré comment les battre en étant très agressifs, comme l'a fait Los Angeles, Deliators. Là, Londres, ils ont été extrêmement passifs, ils ont subi. Le plan de jeu était vraiment, à mon avis, très mauvais de la part de Londres. Et encore une fois, c'est une équipe, quand elle est mal préparée, on le voit souvent, hein, les méta sont pas dans leur sens, ou alors que la préparation se passe pas très bien, bah derrière, sur scène, ils sont pas capables de trouver des solutions, et là, c'était le cas, et j'ai trouvé ce match de Londres très, très, très décevant.
Ils prennent quand même un full hold sur Eichenwald, c'est moche, quoi.
Ouais, c'est violent, c'est assez violent.
Moi, mon flop, il est peut-être un peu simple, mais en fait, en regardant les résultats des matchs du premier jour, je me suis dit que c'était dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui ont l'air un peu one-sided, et que du coup, pour un truc où t'as un peu d'enjeu et de public qui vient, d'avoir 3-4-0 et un 3-1 au milieu, c'est peut-être pas forcément hyper rigolo. Alors, peut-être si pour Dallas, parce que voilà, c'est l'équipe qui gagne 4-0 à domicile, il était content. Maintenant, dans les autres matchs, peut-être qu'ils auraient aimé avoir un peu plus de challenge et d'opposition. Voilà, moi je trouvais ça peut-être un peu triste pour les gens qui étaient là le premier jour seulement.
Heureusement que le deuxième jour était là pour un peu contrebalancer, ou c'était un peu tout l'inverse d'ailleurs.
Mais... Exactement. Ton top, Logo ?
Mon top, justement, on l'a utilisé tout à l'heure, c'est Unco, yes. Que j'ai trouvé vraiment... très impressionnant. C'est rare que les, mis à part quand ils font des kills, mais les flex support, on va plus souligner leurs erreurs, la transe de Zenyatta qui est chargée trop lentement, qui est pas lancée au bon moment, des choses comme ça. Et lui, déjà sur Zenyatta, bah, il reste assez irréprochable, hein, pas trop d'erreurs de fait. Il charge bien ses ultis et des discords sont bien. Enfin voilà, rien à dire à ce niveau-là. Et surtout sur Ana face à Houston, il a été monstrueux. Le nombre de grenades qu'il a fait, qui étaient décisives, où il sauve son équipe. Il quatre joueurs de Houston d'un seul coup et derrière ça permet de prendre l'avantage sur le team fight. Enfin, il a été vraiment très impactant. Il a l'impact que des grands joueurs sur ce match. Il mérite, je pense, le titre de MVP sur ce match contre Houston parce que franchement, il a été vraiment très clutch à beaucoup de moments.
C'est pas lui qui l'a eu, je suis en train de regarder du coup en même temps.
J'ai pas du tout vu qui était MVP, je t'avoue. Mais
je sais que Wikipédia le dit, donc je m'en vais le vérifier de ce pas. Et c'est Unco qui a été élu MVP.
Magnifique. Eh bien, c'est mérité.
Bravo, bravo à lui, bravo aux joueurs français. Moi, mon top, c'est une belle image que j'ai vue passer là pendant le week-end dans mes rares moments de connexion au monde civilisé. Puisque c'était sympa de voir cet échange de maillots entre Soon et Gushue. Oui, c'est vrai, c'était pas très bien fait, ça avait pas l'air très naturel, c'était un peu cringe, ils savaient pas trop où se mettre. Mais je suis content de voir que ce qui fait ce que j'aime dans les sports traditionnels de fair play, de gestes un peu comme ça, mais aussi un peu de trash talking comme on l'a vu et comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, ces éléments-là font que j'aime le sport et j'aime l'e-sport aussi. Et du coup, je suis content de voir que en Overwatch League, de temps en temps, ils se disent que c'est pas mal de faire des trucs comme ça. Et c'est aussi pour ça, voilà, que je suis content de voir quand des joueurs qui se connaissent et qui s'apprécient une fois le match terminé, manifestent leurs sentiments les uns vers les autres. J'aime cet esprit de fair play et de respect entre les joueurs, quel que soit le sport et l'e-sport, donc je suis content d'en voir en Overwatch League.
Quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un côté très bizarre, c'est que les mecs s'échangent les maillots, mais ils ont quand même les autres maillots sur le dos, et en fait, j'ai réfléchi deux secondes, j'ai dit, ah ouais, mais attends, si ils se foutent torse nu et que se file le maillot qu'ils portaient pendant le match, ça serait encore plus cringe.
Ce serait un peu bizarre.
Ce serait vraiment bizarre. Peut-être deux mecs torse nu avec leur corps, pas d'athlète de sport physique, quoi.
Exactement.
Donc, ça aurait été pas fan.
Quand c'est Edinson Cavani ou je sais pas quel autre joueur de foot qui enlève son maillot pour le filer à un adversaire, bon, tu reconnais que le type fait ce qu'il fait, quoi. Il le fait bien. Je sais pas ce que donnent Soon et Gushue en dessous du maillot, et honnêtement, c'est pas mon problème. Donc bon, voilà. Le geste est beau et j'étais content de le voir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et surtout, j'espère que ça deviendra un peu pas systématique, mais naturel, disons. Voilà, tu vois, typiquement, deux mecs d'une même nationalité qui se jouent, alors pas forcément les Coréens, parce qu'il y en a beaucoup, mais deux Français quand ils se jouent, deux Canadiens quand ils se jouent, petit échange de maillot, tranquille, toi. Je trouverais ça cool. Voilà pour mon top et voilà pour nos flop top. On met un petit jingle preview, puisqu'il n'y a pas de questions, on le redit malheureusement. On en aura la semaine prochaine, promis. Et on passe au preview de la semaine prochaine. Capture the objective. Semaine prochaine, donc dernière semaine déjà du stage 2, ça passait de vitesse, mes enfants. Pas beaucoup de matchs fous, on va pas se mentir. Donc on a un peu galéré pour trouver de quoi vous parler. On va d'abord faire un tout petit rappel aujourd'hui des forces en présence pour les playoffs de Stage 2. Donc il y a déjà 5 équipes qualifiées. Gladiators, évidemment, Shock et Titans qui sont invaincus. Excelsior en 5-1 qui sont qualifiés également. Et Spitfire qui sont en 5-1. Qui viennent donc de prendre quand même une petite défaite là cette semaine, mais qui restent qualifiés. Derrière, Dallas, Hangzhou et Séoul sont aujourd'hui les trois qualifiés, mais techniquement, les Dragons, les Hunters, les Fusions peuvent revenir. Alors, mathématiquement, Uprising, Eternal, Reign et Valiant, même Defiant, peuvent revenir. Maintenant, on va pas se mentir, il y a peu de chances que ça arrive. Defiant, pour vous donner une idée, ils sont à une victoire, quatre défaites.
Et à moins 9.
Et à moins 9. Enfin, je vois pas dans quel monde ils reviennent. Maintenant, s'ils reviennent, bravo à eux. Alors là,
il y avait une chance sur 14 millions que Thanos soit vaincu.
Hein. Le mec spoil Avengers en plein podcast. Mais ça va pas te faire ça.
J'ai rien spoilé, c'était dans le premier.
Ouais.
Il y a une chance sur la vie. Ah bah oui.
Ouais. Ne parlons pas de ces choses-là. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Moi, heureusement, je l'ai vu, donc très bien. Mais maintenant, ça suffit, le Goyet. Oui, je t'appelle par ton nom parce que là, tu fais des choses qui vont loin.
Je suis puni d'identité secrète.
Ouais. Tu vas loin, là. Attention. Bref. Et donc, sont éliminés pour de bon et sûr et définitivement Guangzhou, Washington, Houston et Florida. Houston, qui sont en 0-5, c'est la première fois depuis le début de l'Overwatch League, donc saison 1 et 2 confondues, qui perdent autant. Et en fait,
c'est même 6 matchs de suite.
C'est même 6 matchs de suite en fait. Là, ils sont en 0-5 sur ce stage, mais ils ont perdu également le dernier match de l'étape 1 qui était contre Atlanta. Et donc, ça leur fait 6 défaites de suite. Ça ne leur était jamais arrivé. Ça ne leur était surtout jamais arrivé parce qu'ils avaient avant le record de victoires d'affilée. Donc, bon.
C'est sévère parce qu'en vrai, ils sont quand même un peu plus forts que Washington et Florida, voire même que Guangzhou.
Oui, je suis d'accord, mais.
À cet endroit-là, ça fait un peu tâche quand même. Mais...
Après, comme toujours, tu peux te réfugier derrière le calendrier, même si en semaine 3... Non, mais en fait, tu vois, en semaine 3, ils perdent contre Philadelphie 4-0, ils perdent 3-0 contre Shanghai, c'est leur faute aussi, quoi. C'est des équipes qui sont à leur portée. Que tu perdes contre Vancouver, que tu perdes contre San Francisco, ou en semaine 1, ils avaient même pas joué. Bon. Mais voilà, quand tu perds contre des équipes du top tableau, je veux bien. Quand tu perds contre des équipes qui sont même pas qualifiées en playoff aujourd'hui, bah, gros, c'est ta faute. Du coup, fort de ces enseignements, quels matchs sont assez importants la semaine prochaine? En fait, les deux derniers. Le calendrier est bien fait. Puisque lundi à 12h30, donc l'avant-dernier match de la semaine, il y a un match entre les Shanghai Dragons et les San Francisco Shock. Important parce que du coup, les Dragons, avec une victoire, pourraient quasiment s'assurer une place en playoff. Une défaite, ce serait plus compliqué, même s'ils ont un dernier match. Ils auront déjà joué un match avant. Contre eux, je ne sais même plus. Contre Washington, bon, donc ils seront peut-être déjà pas mal. Il faudra valider. Ça va pas être facile quand même, on va pas se mentir.
En plus, je viens de voir le map pool, mis à part Paris, et encore Paris, c'est que sur le premier point, c'est des cartes qui sont très à l'avantage de la GOAT. Donc il y a Oasis, Kings Row et Rialto, qui sont quand même des cartes qui jouent pas trop sur la verticalité. Naturellement, les triples-triples sont très méta. Et les chocs aujourd'hui, c'est quand même les plus forts à ce niveau-là. Après, les Dragons, ils ont surpris beaucoup de monde. Hein. Ils sont capables, sur des exploits individuels, de faire des bonnes performances. Donc, c'est un peu une équipe piège. Après, les chocs, ils sont sur un autre, enjeu. Hein. Ce qu'ils veulent, eux, c'est ne pas perdre une carte de tout le stage.
Ouais, c'est ça. Ils ont rejoué Philadelphie en début de semaine. Ils ont les moyens de leur mettre 4-0, on va pas se mentir. Ouais, même si avec Philly, on sait jamais.
Ouais, mais on sait jamais quand même. Faut quand même rester pessimiste pour eux.
Oui, bon, mettons. C'est vrai que ce serait assez rigolo de faire un 28-0, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. 28-0. Ce serait marrant, ça ferait 28-0 comme 28-0 le nombre de matchs que tu peux jouer dans la saison.
Heureusement, c'est incroyable. C'est fantastique.
Vancouver est encore qualifié pour le 28-0.
Mais oui.
Superbe. Tout ça pour dire que ce match-là est quand même largement à l'avantage des Chocs sur le papier. Ils sortent d'une semaine de repos en plus. Alors Shanghai aussi, bon. Donc cet argument ne veut rien dire. Merci à tous.
Non, mais Shanghai, c'est une équipe sympa à avoir joué quand même. Équipe réservée.
Qui revient en fait après sa saison 1 historiquement catastrophique, qui revient à un niveau bien plus agréable et du coup avec des joueurs qu'on aime bien regarder. Moi je suis content de voir DM jouer, je suis content de voir Grigori quand elle joue aussi. Donc voilà, c'est des.
Ding est très sympa aussi.
Ding. Je sais pas, est-ce qu'il faut dire les 2D? Non, il avait dit que non, je crois. Ding. Quel enfer. Bon,
ça rappelle
on va quand même prendre San Francisco si on doit pronostiquer, on est d'accord.
Elle te rend ding. Pardon. Excusez-moi. Tous ceux qui sont des années 90 et qui ont eu 10 ans dans les années 2000 savent ce qui se passe.
Incroyable ce qui vient de se passer dans ce podcast. En train de me rappeler.
Naughty.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je cherchais le nom de l'artiste en même temps. J'essayais de faire le malin en cherchant sur Google et j'ai pas réussi.
Non, je suis un spécialiste de Naughty. J'avais le CD quand j'étais ado. Je connais très bien.
Superbe.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
L'autre match, donc, qui sera le dernier de la semaine et qui a aussi un gros enjeu pour les playoffs, et là un enjeu direct, puisque c'est Seoul Dynasty contre Hangzhou Spark. Ces deux équipes qui auront... Non, Hangzhou n'aura pas joué avant, donc ce sera vraiment leur dernier match. Seoul, ils auront joué contre Vancouver. On peut imaginer
qu'ils vont perdre.
D'ailleurs, c'est un petit remake d'un match de playoff, si je dis pas de bêtises.
Bah, de demi-finale.
Ouais, c'est ça. Oui, c'était fait rouler. Bon, bah, ça risque d'être le même. Tout ça pour dire que, voilà, pour les deux, il y aura vraiment un enjeu parce qu'il restera probablement plus qu'une seule place à ce moment-là, et on peut imaginer que le gagnant ira en playoff et pas l'autre.
Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Séoul, ils ont quand même un bon map average en 3-2 comme Shanghai est derrière, les Chengdu Antlers sont en 3-3 et Philly aussi, donc toutes ces équipes sont pas loin, mais toutes les autres équipes sont à plus 2 ou plus 1, eux ils sont à plus 6. Donc s'ils se prennent un 4-0 de Vancouver Titans, pardon, oui. Ils restent quand même à plus 2 dans le différentiel de cartes, et donc ils vont se retrouver à 3-3 avec vraiment pas du tout hors-jeu pour la course au play-off. Ouais. Et donc, ce match contre les Hangzhou Spark va être vraiment très important, quoi qu'il arrive, de ce match de Vancouver contre Séoul. Et l'équipe qui gagne valide son ticket, ça c'est sûr. Quasi, quoi.
Oui, parce que Spark, il serait à 5-2.
Ouais. Et puis bah, derrière, Séoul, quoi qu'il arrive, a un différentiel de cartes qui est déjà à leur avantage. Donc, mis à part vraiment cataclysme ou truc improbable, s'ils gagnent ce match, ils seraient qualifiés pour les play-offs. Et en vrai, c'est pour moi les deux équipes qui ont été le plus en forme, qui ressortent en meilleure position de ce week-end à Dallas. Donc c'est quand même un mini-choc. Hein. C'est deux équipes qui viennent bien en ce moment, qui sont peut-être, comme disait tout à l'heure, les deux plus disciplinées. Donc d'un point de vue stratégique, ça risque d'être très intéressant, quoi. Et il va y avoir,
Ouais, ça peut être d'autant plus intéressant que le seed one risque d'être s'ils finissent en plus 28, ce sera eux. Mais ça peut être, ça peut très bien être un Gladiators qui aujourd'hui est encore invaincu.
Bah, a priori, seed 1, seed 2, je pense que ce sera Gladiators et Vancouver Titans. Hein. Les Gladiators sont numéro 1 aujourd'hui parce qu'ils ont à jouer une carte de plus. Mais après, est-ce que tu préfères jouer les Shocks ou les Titans?
Ouais.
Je sais pas, personnellement, c'est compliqué. Hein.
Bon, mais ouais, de toute façon. Ouais, ça va donner des matchs sympas. En fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être le sixième qui jouerait Gladiators et qui du coup serait
après, faut pas se prendre la tête, hein. Faut gagner tous les matchs pour les playoffs de fin de saison.
Ça
sert
à rien de faire calculs.
Et puis, c'est pas grave. Si t'es 7 ou 8ème, ce qui compte, c'est de gagner des marques. Hein,
ouais,
des cartes,
on a vu au stage 1 que bah, finalement, le 7ème pouvait tout à fait aller au bout. Il y a quand même juste un minimo sur un autre match qui peut être rigolo cette semaine. C'est le dimanche à 22h45. Le samedi à 22h45.
Mais tu m'as fait peur parce que dimanche à 22h45, c'est Justice contre Uprising. C'est le moyen de la mort.
C'est le samedi à 22h45. Je m'excuse, j'ai dormi 1h30 cette nuit, donc je fais ce que je peux. Et je faisais même pas la fête. C'est Atlanta contre New York Excelsior. Et si vous vous souvenez, il y a deux semaines, Atlanta avait choqué le monde en battant New York Excelsior pour la première fois de cette saison en saison régulière. À ton avis, est-ce que la vengeance d'Excelsior sera terrible?
Moi, je pense qu'il y a environ 80% de chances que Atlanta perde 4-0.
On est assez d'accord.
J'imagine que là, ils sont en train de dasher comme Sonic Dash pour se mettre en boule et rouler et aller très très vite. Là, New York, ça fait deux semaines qu'ils dashent.
C'est les mêmes couleurs en plus.
Ouais, et puis on est dans l'actu avec cette fabuleuse bande-annonce d'ailleurs.
Ah, bah, tu vois, j'ai même pas vu, donc je vais aller regarder ça en partant.
Ouais, prépare-toi, mais faut l'avoir.
Ok, d'accord. Eh ben, je regarderai ça. Voilà pour les matchs de la semaine, et voilà pour ce podcast. Un petit peu, un petit peu plus court, et puis je viens de voir le chrono, en fait, pas tant que ça.
Bon. Décousu, en tout cas.
Ouais, non, mais voilà, comme dit, on le fait un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on a eu un peu des contraintes de calendrier, mais on tenait quand même à le faire, parce que bah, c'était quand même la première semaine de match à l'extérieur de l'Overwatch League, en dehors de la Blizzard Arena, et c'était un événement duquel enfin, sur lequel on voulait revenir et mettre en avant parce que c'était une grande réussite. Donc voilà, merci à tous. Et puis surtout, c'était l'épisode 50, en fait. On n'a rien fait, c'est dommage. On aurait pu essayer de faire un petit truc spécial. Bon, on le fera pour le 100. Merci donc à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On remercie les gens qui nous suivent partout et qui mettent des reviews, notamment sur Apple Podcast, comme souvent. Vous savez que ça plaît à notre ami Stock Logo. Alors, la semaine dernière, je voulais chercher, mais j'ai pas trouvé le lien pour voir si on avait des nouvelles. Comment on trouve?
Bah, tu tapes simplement Apple Podcast Nerdis et puis après tu tombes sur le premier lien. Il y a pas de, je t'enverrai le lien si tu veux. Il y a pas de nouvelle review. D'ailleurs, la semaine d'avant, vous m'avez fait beaucoup rire parce que vous avez relu une review qu'on avait déjà lue la semaine d'avant.
Ah, mais tu sais, ah ouais, bah, ça c'est la faute de Chabat, hein.
Non, par contre, on est.
Je me fais avoir parce que moi j'arrivais sur la page US du podcast Nerdis où là il y a juste une review, mais j'arrive pas à la trouver.
Alors, il y a une review en US, là, d'accord. On a eu des nouvelles étoiles et d'ailleurs on est à la note parfaite de 5 sur 5. Alors merci à tous.
Merci.
C'est vraiment vraiment gentil. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires. C'est comme ça qu'on peut être visible et bah, ensemble faisons progresser la communauté Overwatch, notamment par le biais de ce podcast.
C'est vrai. Ensemble tout devient possible.
Calme-toi tout de suite.
Hey, t'as commencé à vouloir spoiler tout à l'heure des films qu'il faut pas spoiler, alors je t'embête.
Ouais, t'es pas obligé de côté Sarkozy non plus. Hein.
Non, mais ça va, c'est une blague de toute façon. Où est-ce qu'on peut nous retrouver tout ce podcast? Évidemment, alors pas sur le site officiel de Sarkozy a priori, mais sur toutes les bonnes plateformes de podcast en ligne, Spotify, encore Apple Podcast, Overcast, Castbox. Breaker, Podbean, Stitcher, voilà, j'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres. Et on est évidemment sur Twitter, @NerdsIsCast. Sur Twitter, pour StockLogo, c'est @StockLogo, c'est facile. Et pour moi, c'est @RaoulVDG. Merci StockLogo d'avoir fait cette émission de bon matin avec moi.
Ben, de rien, pas de souci. C'est un bon réveil.
Mais ouais, c'est très sympa. On espère que vous allez profiter de ce jour férié pour réécouter tout ça et pour vous refaire quelques petites VOD des matchs de ce week-end si vous n'avez pas pu tous les voir. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et pour débriefer ce stage 2 de l'Overwatch League. Plein de bisous. Tu veux le mot de la fin, Logo?
Pouette.
Voilà. Bisous.
Salut.
Heroes never die.
Nerf this!